Radio Okapi. Blaise Shindani au micro. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Les USA et la RDC réaffirment leur volonté d'approfondir leur partenariat stratégique. Les deux pays viennent de tenir la toute première réunion du comité de pilotage conjoint chargé de mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC. L'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté l'attaque par drone menée contre l'aéroport de Kisangani dans la province de la Tchopo par le mouvement armé AFC M23. Pour cette institution africaine, cet acte constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. L'invité de ce journal est François Kassanda Lumembo. Il est secrétaire général du ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il parle du fonctionnement, du rôle et des priorités de son secteur. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bon week-end à tous. Les États-Unis et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir leur partenariat stratégique. Les deux pays viennent de tenir la toute première réunion du comité de pilotage conjoint chargé de mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC. Une rencontre marquée par la désignation par Kinshasa de la liste initiale des actifs de la réserve d'actifs stratégique ouvrant la voie à des futurs investissements américains, notamment dans le secteur des minerais critiques. Les deux gouvernements insistent aussi sur les liens essentiels entre développement économique, paix et stabilité dans l'est du pays. Benjamin Mudumbi.
Selon le communiqué du département d'État, les États-Unis et la République démocratique du Congo ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la croissance économique, de la stabilité et de la prospérité à l'occasion de la réunion inaugurale du comité des pilotages conjoints. Cette première séance a officiellement lancé la phase opérationnelle de l'accord et a permis au gouvernement congolais de présenter la liste initiale des actifs de la réserve d'actifs stratégiques. Ces actifs auxquels les entreprises américaines auront un accès préférentiel doivent favoriser des investissement porteur de stabilité, de transparence et d'opportunités d'emploi en RDC. La désignation de ces actifs est considérée, selon le communiqué, comme une avancée majeure vers la création des conditions favorables à des investissements significatifs dans les secteurs de minerais critiques. Le communiqué souligne par ailleurs que la paix et la sécurité demeurent fondamentales pour la réussite de ces partenariats. Les deux pays ont dû se quitter des actions menées pour stabiliser l'est de la RDC et ont rappelé que les progrès économiques ne peuvent être dissociés de la consolidation de la paix, de la préservation de l'intégrité territoriale et de la stabilité nationale. Washington et Kinshasa réaffirment leur détermination à concrétiser pleinement l'accord afin de libérer les potentiels d'investissement de la RDC et d'en faire bénéficier les deux pays.
Ici à Kinshasa, la semaine économique RDC Afrique du Sud s'est achevée ce vendredi sur une note résolument optimiste. Pendant 5 jours, décideurs publics et opérateurs privés ont échangé autour des opportunités d'investissement et de coopération industrielle entre les deux pays. Au terme des travaux, le mot d'ordre est clair, passer des intentions aux actions concrètes, notamment dans l'agro-industrie et la transformation locale. Les autorités et institutions impliquées se disent prêtes à accompagner le projet issu de ces échanges. Écoutez à ce sujet le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Ntumba Batukonke Hervé, au micro de Nancy Atambo.
Les FPI s'engagent résolument dans une ère de rupture avec les pratiques du passé, avec tout ce qui a terni l'image de notre institution. Les FPI aujourd'hui et de demain tient à être un partenaire fiable, prévisible et professionnel au service exclusif du développement industriel de la République démocratique du Congo. Notre mission demeure claire, financer, accompagner et catalyser les investissements productifs, créateurs de valeur d'emploi décent et de substitution aux importations. En d'autres termes, être l'instrument financier public au service motrice de l'industrialisation nationale. C'est dans ce cadre que s'inscrit pleinement cette mission conjointe avec nos partenaires d'Afrique du Sud. Les résultats de cette mission sont tangibles et porteurs d'espoir. Un pipeline d'investissement structuré et crédible a été identifié avec des perspectives de financement et des partenariats stratégiques dans chacun des secteurs prioritaires. Dans l'agro-industrie, visant à renforcer la sécurité alimentaire, à structurer les filières locales et à réduire significativement les importations.
Ce journal se poursuit dans la province du Maniema où 2000 foyers améliorés dénommés Salamakala octroyés aux ménages des 10 villages des territoires de Kailo, Pangi, Kibombo et Kasongo par la SBL Solutions Durables Congo. La cérémonie officielle de la production et distribution des masques a eu lieu jeudi 5 février à Kindu en présence du ministre provincial de l'Environnement du Maniema, financé par la coopération allemande GIZ dans le cadre du programme Chabodou. Ce projet vise à lutter contre la déforestation dans la province du Maniema. Florence Kizalunga, reportage.
Le directeur technique de l'ASBL, Solutions Durables Congo, Manon Taingi, fait savoir que ce foyer amélioré, Salamakala, est comparable au réchaud à gaz.
Ce projet vise à réduire ultimement la déforestation avec deux actions principales. Le premier, c'est l'apport et la diffusion dans la province de Maniema des foyers améliorés adaptés au milieu rural que nous appelons le foyer Salamakala. Ce foyer est un foyer gazéificateur qui utilise le bois, charbon de bois comme combustible principal, alors poser la plupart des foyers qui utilisent la braise. En plus, c'est à la fin de la cuisson de pouvoir produire le charbon de bois avec une capacité calorique très très importante comme pratiquement un réchaud à gaz.
Le ministre provincial de l'Environnement qui salue cette initiative demande à la population de s'approprier ces projets pour ainsi éviter la déforestation. Masumbu Kolutaka Francis.
C'est un projet qui vient contribuer à réduire la pression sur les ressources forestières et à rationaliser l'utilisation des bois énergie. Évidemment, c'est un très bon mécanisme qui vient accompagner nos communautés vers des modes de consommation plus durables en préservant notre capital forestier pour la génération future.
Cette structure envisage aussi dans son programme la plantation de plusieurs arbres. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le président de la Commission de l'Union africaine exprime sa plus vive préoccupation et condamne avec la plus grande fermeté l'attaque des drones menée contre l'aéroport de Kisangani dans la province de la Tchopo dans l'est de la République démocratique du Congo. Une attaque revendiquée par le mouvement armé AFC M23. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, Mahmoud Ali Youssouf souligne que cette attaque dirigée contre une infrastructure aéroportuaire située dans un centre urbain majeur et exposant gravement les populations civiles constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Plus de détails avec Grâce Amzati Masanzi.
Le président de la Commission de l'Union africaine rappelle qu'en l'absence de preuves établissant de manière objective le caractère strictement militaire de la cible, une infrastructure aéroportuaire conserve sa présomption de bien civil et bénéficie à ce titre d'une protection pleine et entière en vertu du droit international. Au regard des instruments pertinents de l'Union africaine, en particulier la Convention de l'OIA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son protocole de 2004, le président de la Commission estime que cette attaque est susceptible de relever de la qualification d'acte terroriste. Il réaffirme avec force que les groupes armés non étatiques ne sauraient invoquer aucune justification politique, sécuritaire ou militaire pour légitimer des actes visant ou mettant en danger des civils ou des infrastructures à usage civil. Le président de la Commission met par ailleurs en garde contre l'élargissement du théâtre des hostilités à des villes éloignées des lignes de front, une évolution qu'il qualifie de facteur majeur d'escalade, faisant peser des risques inacceptables sur la stabilité nationale et régionale, ainsi que sur la situation humanitaire déjà critique dans l'est de la RDC. À cet égard, il appelle l'AFC M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, à renoncer à l'usage des moyens et méthodes de guerre indiscriminées et à se conformer strictement aux engagements pris dans le cadre des efforts de paix en cours.
Et puis le gouvernement congolais a validé ce vendredi la feuille de route de la stratégie pour la reconnaissance des génocides commis en RDC. L'adoption de ces documents a eu lieu après la séance d'harmonisation des vues des animateurs du Fonds national de réparation des victimes FONAREV et la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR autour du ministre des Droits humains. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de cette réunion, le ministre Samuel Mbemba et ses interlocuteurs ont échangé sur les actions à mener sur les plans national et international, notamment la conception et l'élaboration d'un avant-projet de loi portant préservation et protection du patrimoine mémorial relatif aux crimes internationaux commis sur les sols congolais. Ils ont également projeté la tenue d'un dialogue avec les membres du gouvernement et ceux de l'Assemblée nationale élargie aux membres des commissions parlementaires et au Sénat, ainsi qu'au corps diplomatique accrédité en RDC. Samuel Mbemba a également expliqué que la finalité de cette démarche est la reconnaissance effective par les États et les organisations internationales des génocides commis en RDC par les Rwandais.
C'était une séance d'harmonisation des vues avec les FONAREV et la SIAVAR sur la manière de mettre en pratique les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et l'encadrement de son Excellence Madame la Première Ministre dans les domaines de la lutte pour la reconnaissance nationale et internationale des génocides commis en République démocratique du Congo par le Rwanda.
Il a par ailleurs souligné que la clôture de l'atelier de rédaction du rapport sur les violations des droits humains commises à Goma et à Bukavu a été renvoyée au 14 février courant.
Éducation sans délai lance une nouvelle vague d'assistance pour la résilience éducative face à la crise dans l'Est de la RDC. C'est grâce à une subvention de 10 millions de dollars américains sur 2 ans que plus de 62 600 enfants de l'Ituri, avec une priorité accordée aux filles et aux plus vulnérables, bénéficient d'un accès sécurisé à l'éducation et à la protection. Ceci est contenu dans un communiqué publié à Kinshasa ce vendredi 6 février, dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Placé sous la coordination de l'UNICEF en partenariat avec Save the Children, World Vision et l'ONG locale Femmes Dynamiques pour le Progrès Social, ce programme a pour mission de restaurer un environnement éducatif sûr. Jude Mister Bilamda pour les détails.
D'après ces communiqués, la vague de violence et d'insécurité qui frappe l'Est du pays depuis 2025 a forcé des dizaines de milliers de familles à fuir. L'ampleur des destructions dans les zones affectées a fortement affecté l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Les enfants payent les plus lourds tributs, insécurité, traumatisme, déplacement, famine et risque de protection. Selon Graham Lang, directeur AI de l'éducation sans délai, en Ituri comme dans l'ensemble de l'Est de la RDC, des millions d'enfants voient leur avenir compromis par la violence et le déplacement. L'éducation est leur seule bouée de sauvetage. Elle protège, redonne espoir et agit à titre de levier essentiel de résilience pour les communautés. Pour Mariam Silla, représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, ces financements contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence récemment adoptée par le gouvernement. La réussite du programme repose sur l'implication soutenue des autorités et des communautés locales. Cette synergie est indispensable pour assurer la continuité éducative et garantir à chaque enfant le droit de retrouver le chemin de l'école en dépit des crises humanitaires, ajoutent les communiqués.
Dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, une organisation caritative lance un appel urgent à la solidarité. La Fédération intègre pour la reconstruction et le développement recherche plus de 70 000 dollars américains pour la prise en charge médicale des rescapés des attaques des rebelles ADF dans les secteurs de Bapéré et la chefferie de Bachouaga. Selon l'organisation, une trentaine de blessés graves sont internés dans différentes structures sanitaires, tandis qu'une quarantaine d'enfants sont devenus orphelins. Face à cette ampleur des besoins, le coordinateur de la FIRD, Zaidel Ngolo, appelle à la mobilisation pour sauver des vies en danger. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Nous menons une campagne sans vol les rescapés des massacres des ADF dans le territoire de Lubero, en secteur de Bapir et chefferie de Bassoa. Et cette campagne est consacrée pour répondre répondre dans l'urgence aux besoins de plus de 30 blessés rescapés des massacres et 40 enfants orphelins. Le besoin est très grand parce que, par exemple, pour les blessés, il y a ceux qui ont des factures de 2000 dollars, de 3000 dollars, il y a ceux qui sont transférés et ils sont ceux qui sont demandés d'aller même se faire soigner à l'extérieur du pays. Ici, la campagne va collecter environ 70 000 dollars qui va répondre à un besoin de plus de 80 personnes, 30 blessés, ainsi que plus de 40 enfants orphelins. Cette campagne vise à mobiliser auprès des particuliers, mais aussi des entreprises, des personnes de bonne foi, le peu que chacun pouvait avoir. Nous lançons vraiment un message de compassion à toute personne intéressée de nous aider à sauver ses vies à court de péril.
Plusieurs blessés pris en charge à l'hôpital général de Matanda à Butembo ont renoncé aux soins faute de moyens financiers, précise l'ONG FIRD.
Actualité internationale.
Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Muammar Kadhafi et candidat à la présidentielle en Libye, assassiné mardi 3 février à Zintane, a été inhumé ce vendredi après-midi à Bani Walid, ville de l'ouest libyen située à 170 km au sud de Tripoli. Il est le fief de la tribu Werfala, resté fidèle au colonel Kadhafi. Une foule immense a commencé à affluer vers Bani Walid depuis la veille. Des milliers de personnes ont participé aux obsèques sous haute surveillance sécuritaire.
L'invité.
Notre invité est François Kassanda Lumembo, secrétaire général au ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Au micro d'Élise Kavira, il parle du fonctionnement, du rôle et des priorités de son secteur. Suivez leur entretien.
Monsieur François Kassanda Lumembo, bonjour.
Bonjour madame.
Comme secrétaire général au ministère des personnes vivant avec handicap, pouvons-nous savoir quelles sont vos priorités à la tête de ce service de l'État à ce jour?
Dans notre secteur, tout est priorité parce que nous venons de naître il n'y a pas longtemps et nous sommes en train de construire le secteur. Pour parler de mon administration, je commence d'abord par dire que la priorité, c'est la consolidation de la construction de notre administration. Nous venons d'achever la première partie du recrutement des cadres et agents sur toute l'étendue de la République et même les chefs des divisions des provinces sont déjà nommés parce que en partant par la politique de la protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et aux personnes vulnérables, nous avons 5 axes stratégiques et chaque axe est une priorité. Et nous devons attaquer par exemple l'axe discrimination, la réduction sensible de toute discrimination et marginalisation des personnes vivant avec handicap. Nous avons l'axe de l'éducation, nous avons l'emploi et l'entrepreneuriat, la santé et l'accès aux besoins sociaux de base.
Les personnes vivant avec handicap et les personnes aux besoins spécifiques sont bien sûr regroupées, réunies dans les associations. Pourtant, nous continuons quand même à voir à travers la ville ces personnes errer ici et là, exigeant de l'aide aux passants, aux vendeurs, aux magasins et différents et même différents acteurs dans les secteurs privés et prétendant d'ailleurs avoir une autorisation officielle pour cela. Que pensez-vous de cette situation et comment comptez-vous récupérer toutes ces personnes-là?
Je crois que toutes ces personnes qui jonchent nos rues, qui font la mendicité, constituent une grande préoccupation pour notre secteur. Ça, nous devons l'admettre. Et que nous ne serons jamais tranquilles aussi longtemps que ce taux ne sera pas sensiblement revu à la baisse. Et je pense que parmi les solutions pour réduire sensiblement ce nombre important est de favoriser, mettre en place des structures qui vont favoriser l'entrepreneuriat. Parce que parmi eux, nombreux ont des idées, nombreux ont étudié, nombreux ont des capacités, mais ils ont seulement besoin d'être canalisés. Je porte à votre connaissance que nous avons aujourd'hui dans notre ministère un fonds national d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation des personnes avec handicap. Ce fonds est créé pour recevoir des projets.
Qu'est-ce qui est à ce jour mis en place pour encadrer les enfants ayant des besoins spécifiques et aussi soutenir et accompagner les parents de ces enfants?
Il est vrai que nous voulons tous devenir comme ce que nous voyons dans les pays développés, en Europe, partout. Je pourrais aussi retourner la question pour dire, mais dans ces pays-là, on paye les chômeurs. Mais vous, aujourd'hui, en RDC, les chômeurs ne sont pas encore payés.
Quel est, Monsieur Kassanda, votre bilan quant à la représentativité des BVH dans les institutions publiques et privées en RDC?
Je venais de vous dire tantôt qu'il y a un décret, mais ce décret ne date que d'une année. Et nous sommes en train de travailler sur son applicabilité. Donc, ce n'est pas encore le moment pour nous de faire un bilan, parce que nous ne sommes qu'au début. Notre administration est encore, n'a même pas encore, parce que c'est seulement l'année passée qu'on nous a doté des cadres et agents. Nous sommes en train de finaliser l'installation de cette administration et le travail commence maintenant.
Vous avez un message à adresser à toutes les personnes avec handicap répandues sur toute la République démocratique du Congo qui certainement ont des attentes vis-à-vis de vous avec votre reconduction à ce poste.
Le message, c'est vrai, je l'adresse à mes compatriotes vivant avec handicap pour leur dire que l'heure est au travail. Évidemment aussi les cadres et agents de mon administration. L'heure est au travail. Taisons un peu nos divergences. Taisons un peu nos petites querelles. Le défi est grand. Je ne dis pas que nous avons des potions magiques, mais nous allons travailler. Et nous espérons qu'avec le concours de tous et de chacun, nous y arriverons. Mais j'en profite aussi pour lancer les messages, non seulement à mes compatriotes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, mais aussi à tout le monde. Je voudrais que chacun, que ce soit au marché, au travail, dans nos familles, partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons nous poser la question, quelle est la situation des personnes vivant avec handicap là où nous nous retrouvons? Est-ce que leurs droits sont valorisés?
François Kassanda Lumembo, Radio Kapi, vous dit merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité François Kassanda Lumembo qui s'entretenait avec Élise Kavira et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler du Matin, coordonnée et supervisée par Jude Mystère Bilan Dankoumar et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengontsoalou. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiokapi.net.